salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons de la chasse, une activité hautement virile. Encore que j'ai découvert qu'il existait maintenant aussi des chasses exclusives entre femmes. Enfin, en tout cas, c'est la pleine saison de la chasse dans de nombreux pays. Mais c'est la France qui compte le plus de chasseurs en Europe et la plus longue saison, 5 mois et demi de chasse. L'occasion de s'interroger pourquoi, dans le fond, chasse-t-on encore aujourd'hui ? La chasse est-elle un loisir comme un autre ? Faut-il encore plus de réglementation ? Les chasseurs peuvent-ils cohabiter en harmonie avec leur environnement? Les voisins, si vous êtes amateur de gros gibier ou de petits volatiles, c'est le moment de vous exprimer. Les autres aussi, bien sûr. Nous parlerons peut-être aussi du braconnage, à ne pas confondre avec la chasse légale, une véritable guérilla des forêts que les États peinent à endiguer. Vos points de vue sur la chasse et vos témoignages, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Et pour dialoguer avec vous, deux gars qui s'y connaissent, Frédéric Danhé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions d'environnement. Vous publiez « La chasse, le vrai du faux », un livre très pédagogique d'ailleurs pour les profanes que certains nous sommes. Vous êtes chasseur vous-même ou pas du tout ?
Du tout.
Vous avez assisté à des chasses ?
J'ai assisté à des chasses, mais je n'ai jamais chassé.
Philippe Jaeger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour.
À Strasbourg en liaison grâce aux moyens techniques de France Bleu Alsace. Vous êtes chasseur ?
Ah, tout à fait.
Alors,
même mon travail.
Oui, c'est votre travail. Et en plus, c'est votre nom. Ça, c'est extraordinaire. Parce que Jaeger, vous m'avez dit qu'en allemand, ça signifiait chasseur.
Chasseur, tout à fait.
Ça, c'est fou. C'est parce que vous appelez Jaeger que vous êtes chasseur?
Écoutez, non, je ne pense pas. Dans ma famille, personne ne chasse. C'est le comble. Je suis le seul représentant de la famille cynégétique. Mmh. Mais bon, pourquoi pas, oui.
Journaliste donc spécialisé pour plusieurs revues de chasse, comme la Revue nationale de la chasse. Vous avez d'ailleurs chassé dans toute l'Europe. Et pas seulement, hein.
Oui, mon métier m'amène un petit peu aux quatre coins du monde.
Par exemple,
j'étais cette année en Nouvelle-Zélande, j'étais en Alaska, en Namibie, enfin bref, la liste est longue. En Russie, je retourne la semaine prochaine en Russie d'ailleurs pour un deuxième reportage, mais je travaille également sur la France et sur les reportages également.
C'est ce qui s'appelle vivre de son hobby.
Oui, en quelque sorte.
C'est tout à fait énervant pour certains.
Ah. Désolé.
Vous nous appelez les voisins et les voisines, bien évidemment, pour dialoguer avec nos deux invités sur la chasse. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages parvenus sur les réseaux sociaux que vous pouvez bien sûr commenter. Messieurs Ali à Niamey, au Niger, nous dit: dans la société traditionnelle africaine, d'une manière générale, et au Niger, il existe une caste de chasseurs. Donc pour nous, cela est partie intégrante de nos traditions et coutumes. Jadis, ces derniers organisaient un événement annuel au cours duquel tous les grands chasseurs se réunissaient pour déterminer la période d'ouverture et de fermeture de la chasse durant l'année. Et d'ailleurs, nommer par la même occasion un chef pour eux-mêmes. Eustache nous dit que la chasse en RDC est très rentable. C'était très rentable les mois passés, parce qu'il y a beaucoup de gibier et que ce gibier procure des mets succulents, nous dit Eustache. Mais hélas, depuis l'arrivée d'Ebola, les gens commencent à avoir peur de consommer de la viande de brousse et cela contribue à la faillite économique de certaines familles. Je précise que d'ailleurs, la commercialisation de la viande de brousse est interdite, notamment dans la province de l'Équateur en RDC, mais dans d'autres pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire. Cher Oumar, chasser doit être un acte de nécessité et non de plaisir ou pour se procurer des sensations fortes. La vie est précieuse, on n'a pas le droit de l'ôter, même s'il s'agit d'un animal. Vous voyez, il y a des points de vue très différents. Ou Jerry, qui est à Port-au-Prince, nous dit: ici en Haïti, c'est le désordre bien ordonné. Toutes nos espèces sont en voie de disparition, chassées par des gens affamés qui ne sont pas chasseurs professionnels. C'est dur et l'État ne fait rien. Ou encore Mokhtar, qui est à Saint-Louis du Sénégal dans le Nord. C'est une région d'ailleurs de chasse. La chasse, c'était pendant le paléolithique, nous précise Mokhtar. Les temps ont changé. Chasser juste pour chasser doit être révolu. Les animaux sont intimement liés à notre écosystème et c'est notre devoir le plus absolu de les protéger. Alors, vous répondrez à tous ces messages, messieurs, 33 1 84 22 71 71. Et vous nous appelez maintenant, les voisins. On a envie d'avoir en direct vos témoignages et vos points de vue. Frédéric Danhay, déjà, les premiers hommes étaient-ils tous chasseurs, pour répondre au message de Mokhtar à Saint-Louis qui nous dit la chasse c'est terminé, c'était pendant le paléolithique.
Eh bien non, vous savez, l'homme préhistorique façon Rahan qui tue les bêtes avec ses ongles ou avec ses dents, non, c'est pas vrai. L'homme pendant très 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 longtemps n'était qu'un vulgaire charognard comme la plupart des prédateurs. Hein. Vous savez, même un gros lion ne se fatigue pas à aller attraper une proie, si peu en choper une qu'à attraper avant lui une hyène. C'est ce qu'il va faire. Non, l'homme était charognard très longtemps. Il est devenu véritablement chasseur avec Néandertal. C'est d'ailleurs notre ancêtre qui était le plus carnivore. Et les techniques de chasse, sans doute copiées sur celles du loup, ce qui crée une parenté étonnante, ont été les plus abouties avec le Cro-Magnon dernière version, c'est-à-dire le Cro-Magnon pré-néolithique. On le voit à l'outillage, on le voit aux armes, hein, les fameuses pointes de sagaie, les feuilles de laurier, qui nécessitaient une technique de fabrication particulière et une technique de chasse très coordonnée. Et on peut considérer que la chasse a socialisé l'homme, que la civilisation humaine a sans doute bénéficié de la hiérarchie sociale liée à l'acte de chasse. Mais pour finir répondre à votre question, c'est vraiment au dernier moment de la préhistoire qu'on est devenu totalement chasseur.
Mais alors à partir de quand on est passé finalement d'une chasse de la survie pour se nourrir à une chasse qui devenait culturelle, sociale ?
À partir du moment où une élite s'est créée à partir du moment où on est entré dans le néolithique, à partir du moment où l'élevage est apparu, donc il n'y avait plus de nécessité de chasse, et du coup l'élite qui tentait de s'imposer et de faire comprendre aux gens qu'il était bon de souffrir pour fabriquer la nourriture par l'élevage et l'agriculture, alors qu'avant finalement, vous savez, les populations de chasseurs-cueilleurs vivaient très bien et vivent toujours très bien. À partir du moment où on s'est sédentarisé, on a fait de l'agriculture, il y avait une souffrance à faire comprendre aux gens, et pour la leur faire comprendre, on a inventé la religion, et puis on a inventé une élite qui a justifié de son existence en s'autorisant pour elle seule le droit de chasser, non plus pour manger, mais pour le plaisir. Et on peut considérer que non seulement la chasse, l'acte de chasse est un des actes fondateurs de la civilisation, mais c'est sans doute un des actes fondateurs de l'aristocratie partout dans le monde. L'aristocratie est fondamentalement chasseresse.
Alors ceci dit, on chasse pas la même chose que ce qu'on achète, hein. C'est-à-dire que l'élevage sont pas les mêmes animaux. Ce qui veut dire que il y a encore pas si longtemps, dans des romans, je pense à des romans par exemple de Marcel Pagnol au début du XXe siècle, on chasse aussi pour régaler la tablée du dimanche. Et pas seulement comme loisir.
Ah bah bien sûr,
pas de la survie, mais c'est quand même pour se nourrir d'une certaine façon.
C'est pour se nourrir. Enfin, faut quand même savoir que notre bien-être alimentaire, notre bien-être général, il a 60-70 ans. Même chez moi dans le Nord, mes arrière-grands-pères allaient chasser. Ils avaient peu à chasser, et pendant la guerre, ils avaient que
parce
ça.
Parce que ça n'était pas inutile, hein, là pour le coup.
Ah bah c'était pas inutile, bien sûr.
Alors qui sont aujourd'hui les chasseurs ? C'est difficile de faire des généralités.
Quand on regarde statistiquement, globalement, c'est un peu comme l'Assemblée nationale. C'est du mâle un peu âgé.
Grisonnant.
Un peu grisonnant, c'est assez peu féminin, c'est assez peu jeune, même si
de plus en plus, quand même.
De plus en plus, oui, ça semble se renouveler. Tous milieux sociaux confondus, mais globalement, j'ai l'impression que le chasseur est plutôt pauvre. D'ailleurs, socialement, c'est intéressant, je vois près de chez moi en Baie-de-Somme, c'est le seul loisir territorial pour des gens qui n'ont que ça, qui ont peu de moyens, et pour qui leur territoire est leur seule vie.
Attendez, ça coûte quand même plus cher que de jouer au tennis en zone rurale, où il y a souvent un club de tennis pour très peu cher, l'accès à un court ou de jouer au foot, par exemple, c'est cher de chasser.
Oui, mais ça reste...
Les permis de chasse, les taxes,
c'est
d'ailleurs vous faites le calcul.
Là, c'est 1600 euros en moyenne par an et par personne.
Oui, c'est ça. Alors ça veut dire c'est les taxes, les permis, la licence, les chiens.
C'est une série de taxes, la chasse, c'est pour les nouveaux chasseurs, c'est le fusil, c'est équipement.
Donc quand même
oui, mais c'est un plaisir
simple. L'année,
oui, certes, mais c'est simple. Il suffit d'aller dehors, entre guillemets, il suffit de prendre l'air, et puis, au risque de choquer certains de vos auditeurs, c'est simple de tirer sur un animal.
Là, on parle de la France, parce que oui, en France, nous avons un système fédéral qui est très bien organisé, comme vous le soulignez d'ailleurs dans votre livre. Chaque département compte une fédération départementale, qui est ensuite relayée par une fédération régionale, qui elle-même est relayée par une fédération nationale, et qui, elle est ensuite liée à une fédération européenne. Et pour ça, la France est assez unique, puisque, et ça vous le soulignez également dans votre excellent ouvrage. Les fédérations vivent des subsides donc encaissés auprès des chasseurs. Et moi qui ai la chance de voyager un petit peu partout, je constate que
c'est
nous sommes les seuls.
C'est pas aussi bien organisé.
Alors
aussi structuré donc.
C'est
aussi pesant en termes de lobbying.
Vous parlez du racket. Non.
Parce qu'en France, alors juste quand même pour recadrer les choses, deuxième activité de loisir des Français après le foot, hein, égalité avec la pêche, plus d'un million de licences, mais en même temps c'est moitié moins qu'il y a 40 ans. Oui. Mais il y a des pays où en proportion il y a plus de chasseurs par rapport à la population, notamment en Finlande.
Les pays du Nord, hein, les pays du Nord européens,
mais
par exemple.
Mais qui ne sont pas aussi structurés en termes de fédération de maillage.
Si, ils disposent, chaque pays dispose d'une fédération nationale, on est bien d'accord. Par contre, au niveau local, la structure n'est pas forcément aussi bien identifiée qu'en France. Mais ce qu'il faut souligner, puisque vous parliez tout à l'heure de l'argent, on va y revenir, en France, effectivement, pour chasser, le chasseur, dès le départ, est obligé d'adhérer à une fédération départementale pour obtenir son permis de chasser, en tout cas pour le valider. Et ça sous-entend effectivement des dépenses qui sont obligatoires.
Ça veut dire que c'est plus cher de chasser en France que dans d'autres pays développés ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en France, si vous voulez valider un permis national, il vous en coûte plus de 400 euros. Et là, je ne parle même pas de l'assurance. Je parle juste de la validation. Donc, ce sont les taxes qui sont encaissées par les fédérations départementales pour le fonctionnement de la structure fédérale nationale. Et à ceci s'ajoute en France également une spécificité mondiale, puisque nous sommes le seul pays à avoir un office national de la chasse et de la faune sauvage, pour le citer, qui prélève grosso modo 50% du montant donc que je cite tout à l'heure, 430 euros cette année pour un permis national. Donc tout ça, c'est pour pour alimenter le fonctionnement de ces structures, et c'est obligatoire. Et là-dessus, effectivement, nous sommes les seuls en Europe, et à ma connaissance dans le monde, à devoir payer de façon obligatoire une cotisation à une fédération. Donc c'est ce qui fait de la chasse un loisir un petit peu plus cher qu'ailleurs en France.
Bref, la chasse pèse très lourd politiquement en France. Bien évidemment, vous nous appelez les voisins, les voisines, surtout les voisins, ça je crois qu'on l'a compris. L'émission sera virile et uniquement virile. Au 33 1 84 22 71 71, que pensez-vous de la chasse ? Vos témoignages aussi, si vous êtes chasseur, la chasse choquante ou utile ? Get high with me, fly with me, ain't no dividing us. East side, west side, north side, south side, unified. Come on and ride with us, put your lighters up. Get high with me, fly with me, ain't no dividing us. East side, west side, north side, south side, unified.
We all keep our peace, dance on the same. East side and the west side come in. Yard man in at the place, you know we ever clean. High grade flow through we bloodstream. The boots I'm out, the girls I'm out, we love the chemistry. We making money, the guns we don't want an enemy. Come in, we do this till I'm morning until it starts dawning. Link up with me, I end me.
Put your lighters up, get high with me, fly with me, ain't no dividing us. East side, west side, north side, south side, unified. Come on and ride with us, put your lighters up. Get high with me, fly with me, ain't no dividing us. East side, west side, north side, south side, unified.
Snoop Lion chez 7 milliards de voisins. Non, ça n'a aucun rapport avec notre sujet sur RFI. On parle de la chasse. Alors, comment vous vous positionnez par rapport à la chasse? Est-ce que vous-même, vous partagez cette passion? On est dans un pays, en France, hein, de là où nous émettons, en tout cas, où la chasse est le deuxième loisir après le football. Plus d'un million de licenciés. On le disait d'ailleurs, c'est un loisir qui coûte très cher. Aujourd'hui, on ne chasse pas pour survivre, ni pour se nourrir, encore que, avec la baisse du pouvoir d'achat, on peut imaginez que si les licences et les taxes diverses n'étaient pas aussi élevées, ça pourrait contribuer à alimenter le réfrigérateur et la tablée familiale. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Pourquoi chasser ? On est en ligne avec Franck qui nous appelle du Cameroun. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Emmanuel.
Franck, alors vous souhaitez vous exprimer sur la nécessité de chasser au Cameroun, notamment par les agriculteurs qui ont de gros problèmes avec leurs récoltes.
Oui, Emmanuel.
On vous écoute,
oui,
Franck.
Bon, moi, je t'en prie, dit que au Cameroun, on achète pas de protection. Premièrement, c'est une activité professionnelle, donc il y a des familles qui se nourrissent entièrement de la chasse, donc un cas pour suivi. La deuxième compétition, c'est que la chasse est un chapeau pour les gagnants
Ouais. La ligne est très mauvaise, Franck. Juste une précision, quand vous dites qu'il y a des familles entières qui se nourrissent de la chasse, donc de viande de brousse, il s'agit de quel gibier, de quelle viande ?
Tout viande, toute qualité de viande, dont la viande de serpent, le buffle, le stingue, le
buffle. Serpent, buffle, etc. Je suis désolée, la ligne téléphonique est vraiment exécrable et pour le confort de nos voisins qui nous écoutent, on est obligé de couper. Mais bien évidemment, ce que vous relayez aussi, c'est l'énervement des cultivateurs qui voient leur culture dévastée. Je voudrais citer aussi un autre message qui nous est parvenu d'un internaute à Lomé au Togo qui nous dit chez nous à Niamtougou, c'est-à-dire dans la région de Kara, dans le nord du Togo. Quoi de plus normal que de chasser ? Ces animaux sont considérés comme des ennemis des cultures. Ils les détruisent, donc normal de les éliminer pour protéger les cultures. Et au-delà de ce fait, la chasse constitue aussi une source de protéines pour la famille. Au lieu de débourser de l'argent pour s'acheter de la viande, il est préférable de chasser pour satisfaire ses besoins. La chasse constitue une source de revenus pour les chasseurs qui revendent aussi une partie du produit de la chasse. Aujourd'hui, Frédéric Danhay, quelle est la situation des cultivateurs par rapport au gibier qui détruit les cultures? On a une situation similaire aujourd'hui ou pas du tout en France?
En France, non. Alors, il y a toujours des cultures qui sont parfois dévastées par des sangliers, mais globalement, non, ça se passe pas comme ça. Il y a peu de braconnage et les plans de chasse font que s'il y a des gibiers destructeurs de cultures, globalement, ils font pas long feu. Mais le témoignage.
Pourquoi? Parce que ce gibier potentiellement destructeur de cultures est détruit par les chasseurs.
Détruit par les chasseurs.
C'est régulé d'une certaine façon.
Bah, en principe, sauf qu'il n'y a rien de régulé du tout et que c'est de pire en pire.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a trop de sangliers. Il y a trop de sangliers. On a laissé faire. On les a nourris trop longtemps. Ces sangliers sont des hybrides de, sans entrer dans le détail. Mmh. Voilà.
On a des sangliers qui aujourd'hui font les poubelles dans les régions périurbaines.
Oui, les chasseurs ont prétendu qu'ils étaient des régulateurs de la nature en remplacement finalement des prédateurs qu'ils ont chassés, dont le loup ou parfois le lynx dans certaines régions. Non, c'est faux. On a joué à l'apprenti sorcier et le problème est en train de nous échapper.
C'est-à-dire, on a joué à l'apprenti sorcier. Qu'est-ce qu'on a fait les chasseurs? Ils ont réintroduit
à une époque dans les années 70 où il n'y avait plus rien du tout. C'est-à-dire, faut bien comprendre que la chute de la biodiversité en France, elle n'est pas liée à la chasse, elle est liée à l'agriculture intensive, elle est liée à l'étalement urbain. S'il n'y a plus de chasseurs de plaine, on n'avait plus rien à chasser en plaine, donc on s'est mis à chasser le gibier d'eau, par exemple, en baie de Somme, et puis on s'est mis à avoir des faisans et des sangliers réintroduits, histoire de justifier, de rentabiliser le coût astronomique de la chasse pour beaucoup de gens. Et ensuite,
parce que c'est une vraie activité économique en France.
Ah bah c'est une vraie activité économique. Donc on introduit des sangliers qui sont hybridés avec les sangliers existants. On les a nourris en hiver. Du coup, on a augmenté la réussite du
donc maintenant
de la
ça pullule et il y en a trop.
Et on sait pas quoi faire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le sanglier a une particularité, c'est que la maturité sexuelle de l'animal, donc de la femelle, de la lait, comme on l'appelle, est liée à son poids. Donc, grosso modo, à quelques kilos près, à partir du moment où une petite lait atteint le poids physiologique de 35 kilos, elle peut donc avoir ses premières chaleurs. Et à ce moment-là, effectivement, on en revient au problème de l'agrainage, puisque l'agrainage a provoqué un accroissement, une accélération, on va dire, de la prise de poids des animaux. Et à partir de là, tout s'est déréglé. Il n'y a pas que ça non plus, puisque la problématique est un petit peu plus compliquée quand même que ça. Il y a le climat également. Il y a eu les ouragans qui ont provoqué, qui ont rendu certaines forêts totalement inaccessibles. Les ouragans des années 2000, par exemple, où pendant 2-3 ans, les chasseurs n'ont pas pu accéder à ces massifs forestiers. Et là aussi, on a eu ensuite explosion démographique du fait qu'il y a plus de prélèvements. Bon, voilà. Mais c'est vrai, je vous rejoins sur le problème de l'agrainage, qui est vraiment au centre de nombreuses discussions, même au sein de la chasse. Puisque des chasseurs sont contre, d'autres pour. Mais le problème du sanglier, effectivement, est partiellement lié à cette question d'agrainage. Mais enfin bon, on va pas non plus saouler vos auditeurs avec des discussions si techniques.
Non, mais c'est vrai que la chasse est un débat sans fin sur justement la place du chasseur dans son environnement. Est-ce qu'elle est utile pour réguler justement des problèmes de surnombre ou pas? Ou au contraire, est-ce que les chasseurs sont à l'origine de ces problèmes de surnombre? Frédéric Danhay, Philippe Jäger, vous restez avec nous. À quoi sert la chasse? S'agit-il d'un loisir comme un autre? On y revient avec vos témoignages, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Nous sommes en pleine saison de la chasse aujourd'hui. La chasse choquante ou utile. Beaucoup de messages très intéressants postés de chez vous, les voisins. Je dis les voisins parce que la chasse, on l'a dit, une activité masculine à 98%, pour ne pas dire 100% dans certains pays. On en discute avec vous, Frédéric Danhay. La chasse, le vrai du faux. C'est un petit livre court, dense, ultra informatif pour ceux qui ont envie de découvrir finalement, au-delà des débats habituels, pour ou contre la chasse. Et Philippe Jaeger, vous êtes chasseur et journaliste spécialisé pour des revues de chasse. Alors, comment est considérée la chasse dans votre pays? Activité utile, choquante ou simple loisir? Tiens, je vous lis un message posté par un internaute du Rwanda qui nous dit « Moi, je kiffe trop la chasse. Malheureusement, je suis d'un pays, le Rwanda, surpeuplé, où il est presque impossible de trouver des espaces vastes et des réserves pour chasser. Ben, déjà qu'il n'y a pas assez de terre pour cultiver et se nourrir. Alors, effectivement, Docta nous dit « Moi, je me régale seulement pour le moment avec Hollywood, un film avec une scène de chasse, je peux pas le manquer. Et surtout s'il a été tourné dans les années 50. Voilà, je trouve que c'est un rare moment qui reste où le père transmet à son fils les valeurs qui font finalement un homme accompli, bravoure, dévotion, sacrifice, abnégation, esprit d'équipe, virilité et sens du devoir accompli. C'est vraiment tout ça, la chasse? Quelques commentaires, Philippe Danhay, et vous qui ne chassez pas, peut-être déjà.
Vous avez fait Philippe Danhay, là, vous nous avez marié.
Frédéric Danhay, pardon.
Ça me dérange pas, hein.
Alors, le nom chasseur.
Oui, ça peut être
vous
ça.
Vous pouvez comprendre ça?
Ah ben bien sûr, ouais, je peux comprendre. Ouais. Par contre, je suis pas sûr, Philippe le saura peut-être mieux que moi, si les jeunes chasseurs qui arrivent à la chasse le sont parce que leur père l'était. Je suis pas sûr qu'il y ait encore une transmission.
Alors, Philippe Jaeger,
je n'en suis malheureusement pas le parfait exemple, puisque chez moi, comme je le disais, personne ne chasse. Par contre, j'ai un fils qui va bientôt avoir 11 ans, qui prend beaucoup de plaisir à m'accompagner.
Ah ouais, donc, vous emmenez à la chasse?
Ah oui. Ouais. Depuis pas mal d'années, d'ailleurs. Il a commencé très tôt. Enfin, ceci dit, il ne fait qu'accompagner, mais il assiste, effectivement.
Et c'est vrai moment aussi, une vraie relation que vous avez entre vous et votre fils à ce moment-là, quelque chose de particulier?
Ah oui, c'est quelque chose que personne ne pourra nous prendre. C'est des moments de complicité inouïe. Alors évidemment, pour certaines personnes, ça risque de les choquer, mais pour lui, il a l'amour d'un animal. Dès le départ, il a appris effectivement néanmoins à respecter bien entendu l'animal, mais une fois que l'animal est mort, bah, il a appris à l'éviscérer, à le découper, enfin à le dépecer, ensuite à le découper et... point ultime, à le consommer, puisque évidemment nous ne consommons pas tous les animaux que nous sommes amenés à chasser, étant donné que les plans de chasse étant aussi importants qu'ils le sont aujourd'hui, qu'on ne pourrait pas tout consommer, mais régulièrement nous gardons effectivement un animal pour la consommation familiale, et c'est un véritable plaisir qui participe d'ailleurs du plaisir de la chasse.
Tout à l'heure on parlait du plaisir. Quand il a commencé à chasser avec vous, donc il est tout jeune, il a 11 ans, il a jamais ressenti de dégoût justement?
Pas du tout,
au moment de l'éviscération.
Mais non, pourquoi il n'y a rien de dégoûtant? Je veux dire, on est tous composés de la même façon. À l'intérieur, il y a des poumons, un cœur, un foie et puis des intestins. Voilà, au contraire, c'est une formidable leçon de biologie.
On n'est pas tous composés de la même façon. Il suffit de lire les messages qui sont postés sur le Ville Facebook. Hein. Les points de vue sont très différents.
Je parlais de la morphologie. D'accord. Je parlais que de la morphologie.
Alors, puisqu'on parlait de virilité, enfin de grandes valeurs comme ça ancestrales, on rappelle ceux qui essayent de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Ça, c'est le numéro de téléphone pour participer à l'émission, 33 1 84 22 71 71. Et je vous propose un petit détour par une pratique alors très particulière. Il s'agit de la chasse à courre. Il faut fouiller dans ses souvenirs de films en costume au temps des rois pour avoir des images un peu précises de chasse à courre. Pourtant, la chasse à courre est encore pratiquée dans de nombreux pays. Écoutez cet extrait d'archives d'un reportage qui a été diffusé dans l'émission Si loin, si proche, présenté par Ludovic Duneau. Ariane Gaffury avait enquêté sur la chasse à courre en France, que l'on appelle aussi la vénerie.
La chasse à courre existe depuis en fait plusieurs siècles et elle n'a pas changé de son origine. Le but aujourd'hui est de ne chasser qu'un seul animal avec une meute de chiens comme faisaient les loups par le passé. A priori, il y avait un jeune cerf qu'on appelle un daguet qui était présent et il devait y avoir un autre cerf un peu plus âgé. Donc on va bien voir l'animal qui va être attaqué. L'homme avant tout est là pour épauler les chiens et en aucun cas pour les inciter à trouver le bon parcours. Trop d'interventions humaines vont tuer le bon déroulement de la chasse. On peut s'approcher par là-bas.
Ouais.
Le but, c'est que les chiens vont retrouver l'odeur de l'animal et vont essayer de le suivre jusqu'à le lancer. Et là, le moyen de communication dans une chasse à courre. Le plus utilisé, ce sont la trompe. Donc c'est un instrument de musique qui existe aussi depuis 2 siècles à peu près. Cette trompe-là va permettre, à travers des fanfares, de renseigner la progression de la chasse dans la journée. Deuxième moyen de communication, c'est celui que je possède, où ce sont plus des gens qui sont à pied. Et là, on va appeler ça une pibole. Si jamais aujourd'hui on a la chance de voir l'animal, avec une pibole, on va sonner 3 coups. Et ça va symboliser qu'on a vu l'animal.
Olivier vient de sonner un vosselet. Il a vu l'empreinte du pied du cerf dans l'allée. Et il appelle les chiens, il informe les veneurs de ce qu'il a vu.
Le cerf, je viens de le voir à cet endroit-là, devant nous, là, à 50 mètres. Normalement, le cerf, quand il vient là, il passe dans le creux. Mais comme il y avait des gens à cet endroit-là, bah, le cerf a refusé le passage et il est parti plus loin.
Les chasses durent plus de 3 heures, 3 heures et demie. Pendant ce temps-là, il y a de fortes chances que l'animal que l'on chasse en rencontre d'autres, parce que c'est une des ruses de l'animal, quel qu'il soit.
Il donne le change.
Il essaye de donner le change, c'est-à-dire qu'il va avec d'autres animaux et qu'ensuite il essaye de livrer le change en se couchant et en laissant partir la harde, ou en la quittant et en doublant ses voies, c'est-à-dire en repartant dans l'autre sens. Ils ont une intelligence formidable.
Vous êtes une cavalière, là.
Là, on attend que l'animal saute dans le chemin pour voir quelle direction il prend.
Vous chassez à court régulièrement ?
Oui, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Ça me plaît, la nature, les animaux, et puis ben, poursuivre mon mari. Là.
Combien ça coûte de mener un équipage ?
Ça coûte, on va dire, pour les plus petits équipages de lapins, 150 euros par an. Et pour les plus grands, les équipages de cerf, une infrastructure plus importante, ça va entre 2 et 3500 euros.
Ça, c'est la cotisation des boutons.
La cotisation des participants, qu'on appelle des boutons, parce qu'ils portent le bouton de l'équipage. L'intégralité des budgets, et je peux vous donner des ordres de grandeur, un budget de lapin, c'est entre 3 et 5000 euros. Un budget de chasse de chevreuil, c'est entre 25 000 et 35 000 euros. Et un équipage de cerf, c'est entre 50 et 100 000 euros. Et dans un budget, il y a un tiers pour le personnel qui s'occupe des chiens et des chevaux, un tiers pour les territoires, souvent une forêt domaniale, et un autre tiers pour tous les frais d'entretien, la nourriture, les soins qu'on apporte aux chiens.
Ils chassent où, ces maîtres d'équipage et leur équipage ?
Principalement, on chasse sur des territoires privés. Pour chasser le lapin, il suffit de 200 ou 300 hectares. Il en faut un petit millier pour chasser le lièvre. Si vous avez 2 à 3000 hectares pour chasser le chevreuil, c'est magnifique. Et on va dire environ 5000 à 7000 pour le cerf. Mais il ne faut pas être propriétaire de 5000 hectares, ça n'existe pas en France. Il faut donc pouvoir attaquer à un endroit et ensuite de pouvoir suivre, avoir le droit de suite. Et c'est tout ça, tout le travail du maître d'équipage pour obtenir ce droit de suite, parce que quand l'animal organise sa défense dans sa fuite, il peut aller à tout endroit, et c'est là où le maître d'équipage doit s'assurer qu'il est accueilli.
Nous sommes à l'étang des mares et bah, le cerf est à l'eau, les cavaliers sont en train de sonner le ballot. La chasse, je pense, va bientôt se terminer. Normalement, l'animal devrait être servi très rapidement dès que la barque sera mise à l'eau. Quoi. À la fin, on abrège très vite. Une personne va le servir, hein, c'est-à-dire lui porte un coup de dague au niveau du cœur. Généralement, ça se passe très très vite.
Donc ils vont sonner la lali bientôt.
Dès que l'animal sera servi, on entendra cette fanfare qui est la lali, et vous verrez tous les veneurs se découvrir, hein, par tradition et par respect pour l'animal.
Frédéric Danhé, la chasse à court, là c'est vraiment, vraiment un loisir de niche, alors que la chasse en général est le deuxième loisir le plus pratiqué par les Français.
Écoutez, c'est très étonnant la chasse à court. La chasse à court, c'est l'archétype de ce qui a fondé l'aristocratie, c'est-à-dire une chasse qui guerrière, mâle et laïque. C'est les trois piliers de l'aristocratie. C'est comme ça que l'aristocratie s'est fondée et a pu prétendre diriger pendant des siècles l'Ancien Régime. Et en même temps, c'est la chasse qui a sans doute le mieux communiqué, qui s'est sans doute le plus ouvert. Elle était en désuétude, elle était tombée en désuétude jusqu'à la fin des années 40. Elle a été remise à flot par quelques amateurs fortunés. Et aujourd'hui, elle s'est ouverte largement. Les tenants de la grande vellerie, de la chasse à courre, ont réussi l'exploit d'en faire, alors que c'est le symbole même de l'aristocratie, d'en faire un patrimoine au même titre que nos châteaux, qu'une émission comme Des Racines et des Ailes. C'est devenu, ça fait partie de notre patrimoine. Ils se sont ouverts à tel point que les deux sociologues, qu'on peut pas franchement soupçonner d'être très à droite, les Pinson et Pinson-Charlot,
Travaillé sur les ghettos de riches, notamment.
Voilà. Hein. Et ils ont travaillé longtemps, c'est un de leurs premiers ouvrages. Ils ont travaillé longtemps sur la vénerie, et ils estiment que oui, on peut difficilement faire mieux. Et je considère que les autres formes de chasse devraient s'inspirer de ce qui a été fait par la grande vénerie pour se rendre simplement plus populaire. Ils se sont simplement ouverts. Mmh. Ils ont fait le ménage chez eux. Il y a encore des chevaux qui sont trop poussés. Il y a encore parfois des chiens qui sont maltraités. Il y a encore des droits de suite assez dégueulasses qui se font dans des villages devant des enfants qui ne devraient pas avoir lieu. Mais globalement, c'est-à-dire que le cerf, on le pousse et il se réfugie dans une cour d'école, c'est déjà arrivé, il se réfugie dans un jardin et il est tué, servi devant les gens. Et ça, c'est désastreux pour l'image de la chasse. Mais globalement, ils ont fait le ménage et c'est assez étonnant quand même.
C'est quand même typiquement la grand-messe de la nature, hein, avec l'aubre plongée dans les mystères de la forêt. Enfin, c'est ça. Quoi.
Mais vous avez tout dit. Vous avez tout dit. On va se ressourcer. Ce qu'a dit tout à l'heure Philippe est très juste. C'est ça, on peut pas nous le retirer. C'est nous qui le partageons. Et si on n'a pas connu ça, on peut pas nous critiquer. C'est pas possible. Et effectivement, c'est un moment de, je pense, de communion avec la nature, presque surnaturelle.
Ouais. Alors ceci dit, c'est pas accessible à tous quand même financièrement. Déjà, il faut quand même participer financièrement. Et puis surtout, il faut savoir monter à cheval, voire être un excellent cavalier.
Ah bah pour chasser, oui. Mais sinon, les boutons, pour les suiveurs, pour la chasse à courre. Mais sinon, les suiveurs sont à pied. Enfin, il y a à peu près, je crois, Philippe, 100 000 personnes qui suivent la chasse à courre.
Oui, à peu près, j'ai pas tous les chiffres en tête, d'autant que dans mon département, ici en Alsace, la chasse à courre est interdite. On est pourtant en France, mais enfin voilà.
On a un droit local
spécifique en Alsace et en Moselle qui concerne la chasse, mais également d'autres secteurs d'activité, effectivement. Et pour la chasse, par exemple, donc nous sommes très très imprégnés par les traditions germaniques, et en Allemagne également, la chasse à courre est interdite depuis le Troisième Reich, en fait. C'est de là que vient cette interdiction, sachant qu'avant, effectivement, il y avait un lien très très étroit entre chasse à courre et aristocratie, mais bon, comme vous le savez, Adolf Hitler avait quelques soucis avec l'aristocratie. Donc ça a été interdit sous des prétextes de bien-être animal déjà à l'époque du Troisième Reich. Et malheureusement aujourd'hui en Alsace, enfin je dis malheureusement, voilà, on les compte, mais enfin je trouve que c'est un mode de chasse qui est très intéressant, mais qui est chez nous est interdit. Voilà.
Alors en tout cas, la chasse à courre, mais surtout la chasse en général, on va revenir à notre sujet, pose tout de même des questions par rapport à l'environnement. On a du mal à savoir si finalement la chasse est favorable à l'environnement ou pas. Nous accueillons un auditeur qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Vous êtes Joseph à Bonnois, 50 km d'Abidjan. Bonjour Joseph.
Ouais. Bonjour madame, à environ 60 km d'Abidjan.
D'accord, vous êtes le bienvenu. Oui. On vous écoute Joseph.
D'accord, merci beaucoup. Moi, j'avais voulu dire que, bon, il y a quelques années, ici en Côte d'Ivoire, dans la partie sud où je vis, la forêt était vraiment riche en gibier. Il y avait les animaux, le gros gibier, le petit gibier, les rongeurs et tout. Bon, maintenant, arrivé à un certain moment, là, il y a une certaine chasse organisée par des braconniers qui chassent des chasseurs professionnels qui vident la forêt, la brousse, pour aller vendre le produit de la brousse, tout ce qu'ils abattent dans les grandes villes. Mmh. Bon, il y a un grand commerce de viande de brousse qui était florissant. Mmh. Et bon,
actuellement, quand même, le marché de viande de brousse est fermé, hein, à Abidjan. Il est interdit du fait des menaces d'Ebola. Mais enfin, là, c'est tout à fait conjoncturel.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. Bon, donc, le phénomène d'Ebola a fait que le marché, bon, on a interdit certaines viandes de brousse. Pas toutes les viandes. Bon, on a interdit, bon, notamment les agoutis, l'agouti, la chauve-souris, les gazelles, antilopes, biches, consorts. Bon, mais les gens, bon, comme ils ont peur, il y a la menace d'Ebola, et les gens ont carrément refusé d'enlever de leur menu la viande de brousse, en dehors de quelques récalcitrants qui font la tête dure. Et nous espérons que ce petit moment, bon, on ne sait pas quand est-ce que c'est la
vaccination. De répit, c'est ça. Vous pensez que ça va être bénéfique pour le gibier qui est trop chassé, notamment par le braconnage, c'est ce que vous voulez dire, Joseph?
Oui. Alors, que cette elle va se reconstruire et que bon, tout le monde gagnerait à ce que l'écosystème, la nature, l'environnement soient respectés. Sinon, avec la déforestation, les champs, les grands champs de verres, de palmiers, palmiers ou autres, bon, la forêt est détruite chaque jour.
Là, c'est pas un problème de braconnage, c'est un problème qu'on a connu d'ailleurs en France. Hein, vous le disiez, Frédéric Danhé, il y a quelques minutes avant le flash, c'est l'agriculture intensive, c'est ça, hein, qui a aussi nuit au gibier chez vous en Côte d'Ivoire.
Oui, exactement. Il y a ça et tout le braconnage, parce que même s'il y a les champs, on ne chasse pas n'importe comment les animaux, ils peuvent quand même vivre quand ils sont pour chasser. Et puis bon, normalement c'est les paysans qui ont le droit de prélever un peu de la nature pour se nourrir. Mais vous voyez, c'était un grand commerce.
Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, Joseph. Qui veut réagir, Frédéric Danhé, là où Philippe Jäger, vous qui avez chassé, vous n'avez pas chassé en Côte d'Ivoire, mais vous avez chassé dans de nombreux pays en dehors de l'Europe.
Pour rester en Afrique.
Ouais.
Bon, j'ai un peu d'expérience sur l'Afrique australe, donc Afrique du Sud et Namibie.
Et les grands pays de chasse.
Et oui, parmi les plus grands pays de chasse africains. Là-bas, la chasse est très très bien organisée. Et alors, souvent, effectivement, on entend des discours qui disent, voilà, c'est choquant de tirer des éléphants, des lions, je ne sais quoi. Il faut savoir que là-bas...
Ah bah attendez, c'est interdit surtout.
Non. Quoi donc?
La chasse aux lions et la chasse aux éléphants. L'éléphant est une espèce menacée, on n'a pas
le... Non, justement. Alors là, on en arrive à la désinformation...
Pas en Afrique australe.
De nos chers médias. En Afrique australe, l'éléphant n'est pas du tout menacé, bien au contraire. D'ailleurs, dans certains villages, il pose certains problèmes de cohabitation avec les habitants et les paysans. Il y a chaque année des personnes qui décèdent suite à des conflits entre la faune sauvage, dont les éléphants et les villageois. Tout ça, on n'en parle évidemment jamais. On montre nos chers amis, que je ne citerai pas, qui détruisent des tonnes d'ivoire sur les Champs-Élysées. C'est complètement aberrant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tuer un éléphant, ça revient exactement à la même chose que tuer une biche ou un lièvre. C'est un mammifère.
Ça va faire réagir, je vous le dis tout de suite. Chiffres, on a 100 000 éléphants qui ont été tués en Afrique ces trois dernières années.
Vous parlez des chiffres donc tués légalement.
Alors il y a un durcissement des législations. Oui. Le Mozambique par exemple est en train de faire passer un texte qui pourrait susciter des peines de prison jusqu'à 12 ans d'emprisonnement à partir de début 2015, sachant que les braconniers du Mozambique ne restent pas uniquement sur le territoire du Mozambique. Que la Tanzanie est menacée, qu'ils braconnent également dans le parc Kruger frontalier en Afrique du Sud. Est-ce que tout cela est exact?
Il faut bien distinguer le braconnage et la chasse légale.
D'accord.
Puisqu'en Afrique, si vous avez effectivement les moyens, et là c'est effectivement lié à une source de revenus.
Oui, comme vous dites.
Ça coûte à peu près 45 000 euros. Hein, on va envoyer les chiffres. Ça fait à peu près 45 000 euros pour chasser un éléphant. Si vous avez les moyens effectivement de payer ce genre de chasse,
dans
vous avez
un
le droit
parc
aujourd'hui,
légal, etc., destiné à cela.
Attention, parce que quand vous parlez de parc, vous parlez d'un parc national, par exemple, pas un parc fermé avec des clôtures, on est d'accord.
Non, bien sûr.
Puisque la chasse se pratique dans un milieu ouvert, théoriquement. Mmh. Alors, ces éléphants-là sont chassés parfaitement légalement, sous le contrôle, d'ailleurs, de gardes et de guides, qui sont donc des fonctionnaires, la plupart du temps, qui travaillent pour les gouvernements des pays concernés, et donc chaque animal est enregistré, enfin, tout ça, c'est totalement transparent, c'est parfaitement légal, et donc, chasser l'éléphant dans ces conditions-là ne posent aucun problème, bien au contraire, puisque ces sources de revenus ensuite bénéficient aux populations locales. Donc c'est un tourisme on ne peut plus durable, hein, puisqu'il ne nécessite quasiment pas d'infrastructure ou de construction de parcs ou de je ne sais quoi. Le chasseur étranger vient, dépense l'argent dans le pays, les populations locales en profitent, il rentre avec son trophée, à savoir les défenses de l'éléphant, grand bien lui fasse, et populations locales profitent de la viande.
Et parallèlement, il y a le braconnage qui décime des espèces menacées, les éléphants, les lions, etc.
Menacé plus ou moins, mais en fait toujours est-il que le jour où vous supprimez effectivement la chasse légale, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, les populations d'éléphants vont continuer à prolifier sans aucun problème, par contre, les braconniers auront le champ libre, puisque là, il n'y aura premièrement plus le risque de croiser de chasseurs accompagnés de gardes, etc., sur le terrain, premièrement. Et deuxièmement, les revenus générés par la chasse à l'éléphant et aux autres espèces qui permettent de financer des brigades anti-braconnage lourdement armées, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour contrer le braconnage, ces gens-là n'auront plus les moyens financiers d'être présents sur le terrain. Donc c'est tout bénef pour les braconniers, donc arrêtons de chasser effectivement les éléphants et le boulevard sera ouvert pour les braconniers. Donc ça, malheureusement, on évoque trop peu ce genre de problème dans les médias occidentaux, en tout cas.
Vous êtes d'accord, Frédéric Danhé, là-dessus ?
Oui.
Parce que c'est quand même un sujet qui suscite la controverse. Ces chasses très exclusives, financièrement parlant, sont considérées aujourd'hui comme assez choquantes.
Il faut bien comprendre qu'en Afrique australe, Afrique du Sud, en partie Zimbabwe, Botswana, Namibie, l'animal ne doit sa protection qu'à l'argent qu'il génère. Ça peut nous choquer. Mmh. L'animal est considéré comme un gibier à regarder ou à tuer. Point final. Résultat, l'argent, effectivement.
Y compris dans les parcs, d'ailleurs, où on se contente de les observer.
Oui, hein. Mais il faut bien comprendre aussi que
très cher aussi.
Ça n'est possible que parce qu'on a des États structurés, stables politiquement, qui ont les moyens d'avoir une infrastructure juridique, militaire, policière. C'est malheureusement pas possible dans la plupart des autres pays d'Afrique. Moi, j'y suis allé sur place quand j'avais enquêté pour Géo sur le trafic d'ivoire. Effectivement, les rhinocéros et les éléphants sont pas menacés en Afrique australe. Par contre, vous allez au Kenya, vous allez encore au Kenya, mais vous allez en Afrique centrale. Je crois que c'est là où on touche le pire, en Afrique occidentale. Là, il n'y a pas de gestion, parce qu'il n'y a pas d'État, parce que les cultivateurs... donc, il n'y a pas de police. Les cultivateurs n'ont pas vraiment de droit de propriété arrêté. Il n'y a pas de plan de cadastre. Donc, ils savent jamais si demain, ils vont pas se faire retirer leurs terres. Et dès qu'un animal arrive, bah oui, ils sont plutôt enclins à l'abattre. C'est une forme de révolte contre l'État.
Le braconnage reste quand même assez peu puni. Peu de peines de prison appliquées, etc.
Quand vous n'avez pas d'infrastructure juridique, de prison,
sont menacées.
Qu'est-ce que vous voulez faire face à des braconniers qui sont pratiquement aussi pauvres que les policiers qui les arrêtent dans certains pays?
Il nous reste quelques minutes si vous souhaitez participer à l'émission. 33 1 84 22 71 71, la chasse utile ou choquante?
Cette milliard de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Philippe Yeager, avant qu'on se quitte, je voudrais que vous qui êtes chasseur, journaliste spécialisé pour des revues de chasse, qu'est-ce qu'on appelle finalement une belle chasse chez vous, les chasseurs?
Oh là là, alors là, ça c'est une question philosophique.
Mais oui, mais en vous fait, savez que pour les profanes, c'est pas facile.
Oui, mais chacun trouve son plaisir ailleurs. Donc voilà, pour moi, je ne peux parler que pour moi, parce que je vais pas parler au nom de mes confrères chasseurs, on est trop nombreux. Moi qui suis issu du sérail plutôt anti-chasse au départ, puisque je ne suis pas issu d'une famille de chasseurs, moi j'ai découvert en fait la chasse tout simplement par le biais de l'ornithologie, et quelque chose me manquait.
L'observation des oiseaux.
Voilà, quand je me prends dans les bois avec mes jumelles.
Donc vous êtes pas un partisan de vider le chargeur, quoi, c'est ça que vous voulez dire?
Non, mais de toute façon, je pense qu'on est plus rare être comme ça dans le monde de la chasse. Mais toujours est-il que, en me prenant dans les bois avec mes jumelles à observer les petits oiseaux, il y a un moment, je me suis dit quelque chose me manquait. Et finalement, ce quelque chose, c'était le fait d'être acteur de la nature et non pas spectateur. Quand vous êtes chasseur, vous êtes acteur, vous êtes intégré à l'écosystème, dans la mesure où vous prélevez quelque chose dans cet écosystème, que vous l'utilisez. Voilà, c'est ça qui, moi je trouve mon plaisir au fait d'être acteur au sein de la nature. Après, comme dit, chacun verra peut-être midi à sa porte, mais en ce qui me concerne, je pense aussi que c'est la meilleure façon quelque part de justifier notre action de prélèvement, puisque voilà, on appelle ça comme ça.
Frédéric Danhé, la chasse aujourd'hui, bon, vous êtes à la base un défenseur de l'environnement. Hein. C'est finalement, vous dites oui, mais à certaines conditions, et dans ces cas-là, lesquelles? Ou comme d'autres, non, la chasse n'a pas de raison d'être aujourd'hui.
Je vois pas pourquoi on interdirait la chasse. Enfin, c'est pas plus stupide que
tous les défenseurs de l'environnement disent pas la même chose que vous. Hein.
Ouais, il y en a pas tant que ça. Non, c'est moi, chasser.
Mais vous dites quoi? À partir du moment où c'est ultra réglementé, respecté.
À partir du moment où c'est réglementé, à partir du moment où c'est tout le problème, où elle ne remet pas en cause l'existence de certaines espèces en tirant, par exemple, des oiseaux un peu trop jeunes, un peu trop fatigués sur leur route migratoire. À partir du moment où les autres activités, les autres usagers de la nature sont respectés, moi la chasse me gêne pas du tout. Moi, il ne me viendrait pas l'idée de tirer sur un lapin, mais si ça plaît aux autres, c'est pas à moi à les juger. Le problème, c'est qu'on met tout en France, dans ce pays manichéen où tout est bien, tout est mal. On met tout sur le plan moral. Moi, ça m'est
c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'émission.
Non, pas du tout.
Alors, dernière question d'un internaute qui nous dit, depuis le début de l'émission, vous parlez de masculinité, de virilité, mais c'est vrai que c'est une des composantes quand même de la chasse. Pourquoi si peu de femmes dans cette activité? Je pose la question peut-être très rapidement à Philippe Jäger, parce que je crois que vous avez fait un reportage sur des chasses spécialisées uniquement pour un public de femmes en Roumanie.
Oui.
On va chasser la caille.
Oui, alors on ne peut rien vous cacher, j'ai fait ça en Roumanie, mais également en Suède, figurez-vous. Puisque justement, aujourd'hui, on assiste à une explosion du nombre de femmes chasseresses dans nos rangs, et je trouve ça très très bien, puisqu'elles apportent une autre vision de la chasse par rapport à celle qu'ont les hommes. Aujourd'hui, les femmes ont tendance à s'émanciper de plus en plus, et je pense qu'effectivement, le fait d'en retrouver de plus en plus dans le monde de la chasse est simplement la prolongation de cette émancipation qui suit son cours, et c'est très bien, vivement qu'on soit 50-50.
Certains voisins qui diront, quand même, c'est plus que c'était la chasse, non, Frédéric Danhay?
Mais vous savez, un des fondements de la phallocratie, du machisme que connaît toutes les sociétés, c'est justement l'interdiction de faite aux femmes de faire verser le sang à un animal, parce qu'on considérait que psychologiquement, il y aurait confusion avec leur sang à elles, le sang menstruel. Voilà, la chasse a fondé aussi le machisme.
Frédéric Danhay, vous publiez, il faut absolument vous lire parce qu'on apprend beaucoup de choses. La chasse, le vrai du faux, aux éditions Delachaux et Niesley. Philippe Jäger, vous êtes chasseur et journaliste spécialisé. Merci à vous les voisins pour vos témoignages et vos messages. Et merci à toute l'équipe, Quentin Ferral, Jonathan Brady, Sandrine Straram. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des femmes en prison et de leurs conditions de vie. Notre émission est une rediffusion. Bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. À demain, même heure, même endroit.